est 17h.
Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio.
Et tout de suite, les infos sur Sud Radio.
Bonsoir à tous. La nuit de la Saint-Sylvestre a connu une baisse des violences grâce au dispositif des forces de l'ordre. Les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur son compte Twitter. Au lendemain du réveillon de la Saint-Sylvestre, les chiffres chutent. En effet, près de 900 voitures ont été incendiées la nuit dernière, contre 1300 en 2019. Près de 440 personnes ont été interpellées. On compte également quelques 800 verbalisations pour non-port du masque dans tout l'Hexagone. Le port du masque, justement, il va en être question lundi. Il va être obligatoire pour tout le monde à partir de 6 ans. La mesure a été publiée au journal officiel aujourd'hui. Jusqu'à présent, cela concernait seulement les personnes âgées de plus de 11 ans. Autre outil pour endiguer la cinquième vague de l'épidémie de coronavirus, et en particulier le variant Omicron, le pass vaccinal. Cela va normalement être débattu lundi à l'Assemblée nationale. Deux féminicides recensés aujourd'hui pour cette nouvelle année. On le rappelle, une femme de 28 ans a été tuée à coups de couteau dans le Maine-et-Loire la nuit dernière. L'auteur présumé a été placé en garde à vue. Une autre personne de 56 ans a été retrouvée sans vie à son domicile en Meurthe-et-Moselle. Son conjoint a également été placé en garde à vue après avoir voulu se suicider. Selon le collectif Nous Toutes, 113 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2021. À l'étranger, ce drame en Inde, 12 personnes tuées et 13 blessées après une bousculade la nuit dernière. Ça s'est produit dans l'un des sanctuaires les plus fréquentés du nord du pays, dans la région du Cachemire. On ne connaît pas encore les raisons de cette bousculade. On termine ce flash par du rugby. Le début de la phase retour du championnat de Top 14. La 14e journée au programme Stade Français Perpignan à 19h ce soir, avant le choc entre Clermont et Toulouse. Ce sera à suivre à partir de 21h05. A noter que la rencontre entre Montpellier et Toulon prévue demain a été reportée. Crise sanitaire oblige. Voilà pour ce tour de l'info en 120 secondes. Excellente soirée à tous.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
17h, c'est l'heure du début des vraies voix du lundi au vendredi, mais on vous en remet une couche aujourd'hui, samedi, avec le meilleur des vraies voix de la semaine. Les vraies voix, vous connaissez tous les jours, c'est de l'actualité, des débats, dans la bonne humeur, dans la courtoisie et dans le respect. Et ça commence tout de suite.
Sud Radio. Le meilleur des vraies voix.
C'est l'heure du premier débat, 17h30. Je vous rappelle que nos trois voix ce soir sont Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté et Philippe Deveul. Autrement dit, trois pointures, trois références. Et je remercie à ceux qui ont pensé à vous pour ma première. Et c'est un bonheur. Le premier débat, donc. Nous sommes dans les présidentielles 2022. C'est passionnant et c'est surprenant. Tenez-vous bien, le parti animaliste, donc, envisage de présenter sa candidature.
Les vraies voix Sud Radio.
Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers.
Pierre Perret.
Ah oui.
Ça fait du bien, Philippe Bilger, hein?
Là, Pierre Perret, certainement, en tout cas.
Ah oui. Oh, je vous vois venir. Ouais. Alors, nous
on
voyons.
On a pas parlé du zizi. Hein,
oui, voilà, il y avait aussi. Il y a tellement.
Bah là, vous êtes tout de suite censuré sur Facebook. Là.
Ah oui.
Bon, alors, nous accueillons et je la remercie de nous accorder un peu de son temps. Hélène Touy, candidate du Parti animaliste à l'élection présidentielle 2022. Alors, ne souriez pas. Sachez que le Parti animaliste s'était présenté aux législatives 2017, 1,1% des voix. Aux européennes 2019, 2,2% des voix. Le PC était à 2,49, l'UDI à 2,5, c'est dire quand même. Et dans un dernier sondage IFOP paru en novembre, 2% des intentions de vote devant Montebourg, Poutou, Lassalle, Artaud. Pas mal, encourageant, n'est-ce pas, chère possible candidate, parce qu'il faut quand même les 500 signatures. Bonsoir Hélène Touy.
Bonsoir.
Bon, je voudrais tout de suite être clair parce que c'est facile de provoquer. D'ailleurs, je rappelle le principe de notre sondage. Vous êtes tous invités à participer et à donner votre avis sur le compte Twitter de Sud Radio. La question, c'est le parti animaliste apporte-t-il au débat démocratique? Je précise tout de suite que vous n'avez pas un programme à proprement parler. Je ne vais pas vous poser une question sur l'économie, sur les questions régaliennes. C'est vraiment une thématique, c'est ça, hein?
Alors nous, notre objectif, c'est effectivement de faire de la question animale un enjeu majeur de cette élection présidentielle et de mettre la question animale à l'agenda politique des 5 prochaines années. Donc on a choisi effectivement de se focaliser sur la question des animaux.
Mais est-ce bien raisonnable ? Parce que quand on se présente en tant que... Enfin, vous avez, excusez-moi, c'est pas vous manquer de respect, mais officiellement, vous avez une chance d'être présidente de la République. Si jamais par je ne sais quoi, mais vous vous y retrouvez, on est bien d'accord, on fait de la fiction, je le sais, mais il y a quand même quelque chose à penser. Donc soit on y pense, soit on n'y pense pas, mais du coup, on ne se présente pas.
Bah, dans ce cas-là, il faudrait dire, tenir les mêmes propos à quasiment la totalité des candidats. Nous sommes réalistes, nous savons que nous ne serons pas élus président de la République, que je ne serai pas présidente de la République, mais pour autant, nous pensons que nous avons une place importante à jouer dans ce débat. L'élection présidentielle, c'est l'élection majeure de notre démocratie, c'est celle qui permet de faire émerger des courants d'idées, des courants qui ne sont pas représentés et qui sont pourtant chers aux Françaises et aux Français. Et donc, nous avons toute notre place, la question animale a toute sa place dans cette élection présidentielle.
Je souhaite, Hélène Touy, évidemment, bon, on fait ça sérieusement parce que c'est officiel, votre candidature. Simplement, je veux aussi qu'on reste souriant. L'histoire de l'affiche, donc en 2017, pour les législatives, c'était un chat. En 2019, pour les européennes, c'était un chien. Vous ne savez pas encore quel animal pour les présidentielles 2022, vous nous le confirmez ? Par oui ou
tout
par
à
non.
Fait, c'est en cours de discussion.
Alors, oui. Vous me voyez venir, je fais le tour de table. Oui, mes vraies voix autour de la table. Quel animal éventuellement ? Allez, mouillez-vous.
Voilà, allez, moi j'ai un cochon.
Un cochon ?
Oui, un petit cochon.
Pourquoi ?
Bah, parce que, vous savez, il y a des gens qui adoptent des cochons, et des petits cochons nains, et c'est des animaux de compagnie. Alors, bah, on n'est pas habitué, parce que le cochon, on le voit souvent arriver à la charcuterie. Mais pourquoi pas ouais. Puis bon, ça a bercé mon enfance. Hein, Aglaïs et Denis, il y a un petit cochon, vous voyez.
Ouais. Et Aglaïs et Denis, c'est votre
époque. Oui, mon époque, parce que avez sorti La Cage aux Oiseaux, ça m'a replongé dans mon enfance, et ça m'a fait ressortir de plein de souvenirs. Mais moi, j'ai beaucoup de tendresse pour les animaux,
ouais.
Et je...
Ouais.
Je pense que les animaux doivent être un sujet justement sérieux,
oui, effectivement.
Et au centre d'un débat politique, et ils sont les bienvenus, je trouve.
Et vous savez, puisque c'est ma première, ben j'en profite pour dédier cette émission à Lénie, qui est mon petit chien.
La mienne Nikki, je lui dis bonsoir, ouais, elle a 15 ans, elle va très bien, petit Jack Russell, voilà.
Ouais, sympa. Ouais. Philippe Bilger, quel animal sur l'affiche ?
Alors moi, une belle vache. Mais vraiment, j'adore les vaches. Quand mes enfants étaient petits, je leur disais « Regarde les vaches, mais je voudrais... À quel moment j'aurais le droit d'être un tout petit peu sérieux ?»
On va y venir.
Problème animal.
On va y venir parce qu'en plus, le choix d'accord. de vos animaux n'est pas anodin. Je termine avec Abdoulaye Kanté.
Après, je voulais parler d'un animal, mais après, vous êtes sûr de perdre l'élection si je dis le pangolin.
Ah
là, par contre, oui, effectivement, je pense que c'est un animal en ce moment qui nous a posé beaucoup de problèmes pendant ces deux dernières années. Donc, si vous mettez ça en campagne d'affiche, vous êtes sûr de ne pas avoir de voix du tout.
Alors, mais des choix pertinents.
Ouais.
Un qui ne se mange pas, et on l'a bien compris parce que ça met la planète en l'air. Et deux qui se mangent. Et c'est bien le souci. Vous êtes, chère Hélène Touy, depuis l'âge de 7 ans, vous ne mangez pas de viande. Alors, on appelle ça parce qu'il y a plusieurs termes. Ça veut dire vous mangez quand même du poisson. Qu'est-ce que vous êtes exactement ?
Moi, personnellement, je suis végane, donc je ne consomme aucun
d'accord.
produit de riz. Voilà, mais j'étais pendant de nombreuses années végétarienne. Et
voilà, végétarienne.
J'ai commencé à être végétarienne.
Voilà. Donc,
aujourd'hui, je suis végane.
Ok, donc clairement, ça y est, nous y sommes, on redevient sérieux, même si c'était sympa. Vous êtes pour exclure toute consommation d'animal ?
Non, absolument pas. Ce n'est pas au programme du Parti Animaliste, même si à titre personnel, et moi je ne consomme pas d'animaux, et puis d'autres personnes du Parti Animaliste ne consomment pas d'animaux, il y a aussi des personnes qui consomment des animaux. Nous, ce que l'on porte comme message, c'est que l'on veut rassembler toutes les personnes qui sont sensibles aux animaux et travailler ensemble à améliorer le sort des animaux. La façon dont on traite les animaux est un sujet qui nous préoccupe tous. On mange des animaux dans des conditions qui sont complètement démentielles, on les enferme dans des bâtiments, ils ne voient même pas la lumière du jour, si ce n'est le jour où ils partent à l'abattoir. En tout cas, c'est le cas de 95% des cochons, puisque monsieur parlait des cochons tout à l'heure. Et donc, ce que l'on dit, c'est que l'on ne peut pas continuer dans ces conditions. Il n'y a pas l'interdiction de consommation de produits d'origine animale au programme du Parti Animaliste. En revanche, il y a la fermeture des élevages intensifs.
Vous avez 5000 adhérents. Il y a même une structure de jeunes du Parti Animaliste qui s'appelle le Campus Animaliste. Et vous êtes finalement très implanté sur des régions où, d'ailleurs, l'électorat se confond un peu avec celui du Rassemblement National. Ça ne veut pas dire du tout que vous partagez les mêmes idées. Je n'ai pas dit ça. Simplement, vous êtes présent par exemple en Lorraine, dans Seine-et-Marne, dans les régions désindustrialisées. C'est-à-dire que finalement, chez des gens qui sont un peu revenus du discours politique et qui cherchent comme une échappatoire, et votre discours leur plaît, c'est ça ?
Alors, il y a plusieurs. D'abord, la cause animale, elle est diverse et elle rassemble des personnes très diverses, de toute origine, de toute catégorie sociale, des femmes, des hommes, de tous les âges. Et ce qui est intéressant avec ce que vous venez de dire, c'est que souvent, on a le cliché du bobo citadin qui serait finalement l'étiquette animaliste. Et en fait, c'est faux. Toutes les personnes, la plupart des personnes sont sensibles aux animaux, quelle que soit leur catégorie sociale. Et chez les personnes en grande précarité aussi, il y a des personnes qui sont sensibles aux animaux. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est une des dernières causes qui rassemble les personnes par-delà toutes les différences.
Il y a
un auditeur en période de fête, on l'accueille avec plaisir.
Non, cher Philippe. Non, il y en a plusieurs. D'accord. Et en plus, celui-ci est très important puisque c'est mon premier.
On va le choyer.
C'est Philippe d'Arles. Bonsoir, Philippe.
Encore Philippe.
Ah, il revient en force.
Bonsoir.
Bonsoir.
Votre avis, vous vouliez réagir ?
Oui, alors, moi, si vous voulez, ce qui m'inquiète le plus, évidemment, je suis un partisan de la défense de la cause animale. C'est un des graves problèmes que notre société finira par payer très cher un jour. Et peut-être bien, d'ailleurs, que l'origine du virus est quelque part... Oui. Par notre système de consommation et d'élevage.
Exact, c'est pour ça que le choix d'Abdoulaye Kanté tout à l'heure sur le pangolin était tout sauf anodin.
Mmh. Ouais. Voilà. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, il y a le livre d'Arnaud Benedetti, que vous connaissez tous.
Oui, rédacteur en chef de la publication politique législative. Voilà. Ouais.
Et qui dresse un portrait au vitriol de tous les présidents de la République française. Qui n'ont fait que ce pays régresse. Je suis désolé de le dire, ce pays régresse.
Mais sur la cause animale ou plus généralement ?
Non, en général.
D'accord. Mais la cause animale, ça vous inspire quoi ?
Je pense que c'est bien, elle n'a aucune chance, elle le sait très bien, mais ça prouve dans quel état de déliquescence est notre démocratie. On est obligé de se présenter à la présidence de la République, sachant qu'il faut 500 voix, ils sont tous mis sous cloche parce qu'ils ont tellement peur, ils sont tellement matraqués par le pouvoir d'en haut, les pauvres maires, qu'on leur fait un chantage à la signature. Alors déjà, il faudrait commencer par faire en sorte que les signatures soient anonymes.
Ouais. Merci Philippe. Effectivement, et en fait, c'est Philippe qui nous recentre dans notre débat parce que c'est vers là que je voulais aller finalement. Bon, déjà la question, et puis on va peut-être vous libérer, Hélène Touy, avant d'en débattre avec nos vraies voix. Mais la grande question maintenant, ce sont les 500 voix. Vous êtes confiante ou non ?
Alors bien sûr, nous sommes optimistes, mais c'est un travail qui est très difficile. On avance tous les jours, on a tous nos militants qui sont mobilisés, qui font un travail formidable. Mais comme l'a dit monsieur, le problème de la levée de l'anonymat des parrainages, ça induit beaucoup de pression sur les maires. Je voudrais dire que les maires ont un pouvoir immense pour respecter et pour faire vivre le pluralisme politique. C'est notre démocratie qui est en cause, et en refusant de parrainer des candidats, puisque c'est de ça dont on parle, 2/3 des maires en 2017 ont refusé de donner un parrainage à quelques candidats que ce soit, et je crains qu'on s'oriente dans des statistiques aussi importantes, si ce n'est plus importantes. On a un vrai problème d'asphyxie de la démocratie, et donc il faut que les maires prennent ce pouvoir qu'ils utilisent pour permettre au débat démocratique de s'exprimer, à des courants d'émerger.
Merci beaucoup, Hélène Touy.
J'avais en plus une toute petite question, mais vraiment, vraiment,
express.
Justement, le parti animaliste, malheureusement, est souvent, on va dire, vu comme un parti, on va dire, assez radical, notamment envers certains éleveurs et tout, parce que vous avez une branche militante qui, justement, vont des fois dans des élevages pour faire des dégâts, etc., juste parce qu'ils estiment que ce sont des génocidaires, des assassins, etc. Mais bon.
Et si d'ailleurs, dans les régions d'élevage, vous êtes assez minoritaire.
C'est ça. C'est ça. Et le problème, c'est que, en fait, comment faire pour justement adhérer la population à votre message ? Parce que je rappelle quand même qu'une grande partie des Français, quand même, est pour la cause animale.
Alors, ce que je voudrais juste répondre, c'est que nous, on prône absolument pas la violence, on s'inscrit dans un débat démocratique. Les actions que vous citez ne sont pas du tout le fait de membres du Parti animaliste. Et même.
Certains qui sont revendiqués.
Non, pas du parti animaliste, du mouvement peut-être animaliste, mais pas du parti animaliste. Et sur les éleveurs, moi j'ai de plus en plus d'éleveurs qui me contactent, notamment des éleveurs de l'intensif qui n'en peuvent plus de leur situation. Il faut rappeler que les éleveurs ont le taux de suicide le plus important. Donc c'est une situation qui est en crise et nous, nous proposons de les aider. Nous sommes d'ailleurs les seuls à être assez lucides sur la situation et à vouloir les aider.
Sud Radio, le meilleur des vraies voix.
Vous écoutez le meilleur des vraies voix, on se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix pour le meilleur de la semaine en compagnie, chaque jour d'un trio de choc, de rire et de bonne humeur.
Sud Radio, le meilleur des vraies voix.
C'est le moment du grand débat, évidemment un grand débat qui nous amène sur... Ce qui se passe aujourd'hui, le gouvernement doit-il accroître les restrictions? Il y avait un conseil de défense à 16h tenu en visioconférence depuis le fort de Brégançon par le président de la République, suivi d'un conseil des ministres exceptionnel. Les premiers ministres et ministres de la Santé et des Solidarités parleront à 19h. Nous allons en parler avec nos vraies voix, Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté, Philippe Deveul. Effectivement, le sujet est dur.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
On avait l'embarras du choix hein, pour les chansons dès qu'il y a une, dès qu'il y a un thème sur la difficulté. C'est la galère.
C'est l'air du temps.
C'est l'air du temps et il faut essayer de comprendre. Et nous voulions absolument avoir quelqu'un qui mette tout le monde d'accord parce que lui, il fait partie de ceux qui réfléchissent, de ceux qui savent. Et vous allez voir qu'on ne sait pas encore tout. Omicron, ses cas contacts, ses contaminations et toute cette économie française qui retient son souffle, un peu comme ça se passe d'ailleurs chez nos voisins. Yves Buisson, épidémiologiste. Ah ouais. Bonsoir Yves Buisson, merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Vous êtes bien avec nous ?
Bonsoir, oui, oui.
Très bien. Alors, bon, on a eu un terrible week-end avec la barre des 100 000 contaminations journalières dépassées. C'était un record. J'aimerais vous poser des questions claires avant que les uns et les autres ne débattent et que vous aussi, les auditeurs, vous donniez votre avis. Je rappelle que vous pouvez apporter votre point de vue également sur le compte Twitter de Sud Radio. La question, c'est le gouvernement doit-il accroître les contraintes, les restrictions. Alors déjà, le point clair, ce variant Omicron, cher Yves Buisson, est-ce qu'il est déjà majoritaire en France? Est-ce qu'il peut coexister avec le variant Delta? Est-ce que les deux sont encore là? Expliquez-nous.
Alors pour l'instant, les deux sont encore là. Le variant Delta est en phase de décroissance. Le variant Omicron est en phase de croissance très rapide. Je ne saurais pas vous dire s'ils réussiront à maintenir une coexistence ou si le variant Omicron éliminera son prédécesseur. Ça, je ne crois pas que quiconque puisse le prédire. Enfin voilà, il faut pour l'instant regarder la situation telle qu'elle est. Mais il ne faut pas non plus se fixer sur ces variants. Moi j'ai toujours dit, chaque fois qu'il y avait un nouveau variant, il y avait un sentiment de panique. Ça a été le cas pour l'alpha, et puis c'était le cas pour le delta, et ça recommence pour Omicron. C'est toujours du coronavirus SARS-CoV-2. On l'évite de la même façon par les mesures classiques.
Les gestes barrières.
Etc.
Et la vaccination, bien sûr. Alors Yves Buisson.
La vaccination est un peu moins efficace avec le Omicron, mais elle reste efficace à condition qu'elle soit bien faite, et qu'elle soit faite donc deux injections et une injection de rappel.
Et le rappel, alors aussi on n'a eu qu'une injection parce qu'on avait été malade du Covid avant, en fait on poursuit avec un rappel sur le pass sanitaire. Je vous donne la parole dans un instant Philippe Deveul, mais je voulais vraiment continuer à poser des questions très précises à Yves Buisson. On sait aujourd'hui donc que le variant Omicron est plus contagieux, on est bien d'accord, on ne sait pas encore tout de sa dangerosité.
Non, on a encore besoin d'un petit peu plus d'expérience, hein, mais parce que ce que l'on connaît, on le connaît surtout d'Afrique du Sud et aussi de Grande-Bretagne. Il s'avère quand même que c'est un variant moins pathogène, mais est-ce qu'il l'est beaucoup moins ou est-ce qu'il est un peu moins? Vous voyez, c'est un peu dans la nuance qu'il faut qu'on soit plus précis, et ça, on a encore des difficultés pour pouvoir être très affirmatif. On espère qu'il sera beaucoup moins pathogène, parce que si c'est le cas, et si les Français arrivent enfin à réussir cette couverture vaccinale vers laquelle on tend, mais on est quand même loin du but attendu, eh bien, l'Omicron passera sur la population, finalement, en déclenchant des rhumes, quelques laryngites, mais en ne tuant personne. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourrait sortir de la pandémie pour entrer enfin dans une phase endémique comme celle de la grippe.
Philippe Devol.
Oui, j'ai une question à poser. Parce que vous dites, oui, c'est le Omicron qui remplace le Delta. Mais comment on fait vraiment le distinguo entre quelqu'un qui est testé, qui est positif au Covid, qu'on dit, ah bah tiens, vous avez un Omicron. Ah bah non, vous, c'était un Delta, mais non, maintenant c'est... Je ne sais pas comment vous arrivez à faire le distinguo.
Sur
les gens qui sont testés positifs, comment vous pouvez savoir que c'est un Omicron et pas un Delta?
Yves Buisson, peut-être. Alors, donc sur le séquençage.
Oui, d'abord, quelle que soit la méthode de diagnostic, si c'est sa méthode test antigénique, il faut faire une PCR. Si c'est une PCR d'emblée, c'est bien. Donc on prend le produit d'amplification, c'est-à-dire l'ADN, parce qu'on transforme l'ARN en ADN, et on le séquence. Donc c'est ce séquençage qui permet d'identifier avec certitude le Omicron. Alors on fait d'abord des PCR de criblage. Et ces PCR de criblage étaient bien adaptés pour reconnaître le variant Delta. Maintenant, quand ça ne marche pas, ce n'est pas du variant Delta, c'est toujours la même chose, on a une forte présomption pour l'Omicron, mais il faut bien entendu qu'un séquençage vienne confirmer l'identification du variant Omicron.
Bon, on a bien compris que rien n'est simple. Une dernière question, avant de laisser Yves Buisson et de vous permettre justement de débattre sur la question que je vous ai précisée au début, c'est-à-dire est-ce que le gouvernement, à l'issue de ses conseils ministres, conseils de défense, doit accroître les restrictions? Donc, dernière question pour vous, Yves Buisson. On parlait d'un variant qui, visiblement, est arrivé par le sud de l'Afrique. Est-ce que si la planète n'est pas totalement vaccinée, et on sait que seuls 8,26% des gens des pays pauvres sont vaccinés, s'il n'y a pas cette vaccination internationale, nous aurons interminablement l'arrivée de ces variants? C'est bien ça?
Non, probablement pas. Je crois que ça, c'est un schéma un petit peu simpliste. La planète ne sera jamais complètement vaccinée. Par contre, on aura une immunité collective qui s'établira soit par l'infection, soit par la vaccination. On voit par exemple que le continent africain, qui a été très peu vacciné, a des taux de séroprévalence élevés, ce qui veut dire que beaucoup d'Africains, un grand nombre, se sont immunisés naturellement contre les virus sans avoir de gros dégâts sur le plan clinique, c'est-à-dire de beaucoup de morts.
Philippe Bilger.
Yves Buisson, est-ce que ça veut dire, quand je vous entends, que vous approuvez ce qu'on croit être la politique du gouvernement qui refuse peut-être le régime plus sévère mis en œuvre par d'autres pays et qui tente de trouver un processus de proportionnalité acceptable par la population, ou est-ce que vous êtes critique là-dessus?
Et j'ajouterai avant Yves Buisson que nous avons eu ce week-end une discussion avec un médecin espagnol qui nous a dit que l'Espagne avait fait le choix de laisser ce variant Omicron qui ne semblait pas totalement dangereux. Donc il y a des politiques très différentes et parfois un peu surprenantes. Yves Buisson.
Oui, écoutez, ce ne serait pas une mauvaise idée. Je dis bien au conditionnel, ça ne serait pas une mauvaise idée de laisser filer ce variant pour justement parce qu'il est peu pathogène et que finalement il ferait assez peu de dégâts. Je dis ça ne serait pas une mauvaise idée parce que quand même on n'a que 75%, 76% de l'ensemble de notre population qui est vaccinée. Donc il reste un quart de la population. Quand je dis la population, c'est tout le monde, hein, depuis les petits-enfants jusqu'aux personnes âgées. On a un quart de la population qui ne l'est pas et qui est donc vulnérable, qui est sensible, qui peut faire les frais d'une primo-infection qui peut être très grave. Donc on serait vacciné comme nous le recommandons depuis si longtemps, puisqu'on était les premiers à l'Académie de médecine à dire qu'il faut faire un pass vaccinal, qu'il faut rendre la vaccination obligatoire, eh bien on serait à plus de 90% de couverture vaccinale. Effectivement, on pourrait croiser les bras et laisser filer ce variant Omicron.
Yves Buisson, merci pour ces précisions. Maintenant, c'est à vous les vraies voix. Je vous libère, cher Yves Buisson. Vraiment, merci de nous avoir accordé de votre temps. Je rappelle, vous êtes épidémiologiste. Je rappelle aussi à vous tous, auditeurs, que vous pouvez intervenir au 0826 300 300 et bien sûr, donner votre avis dans la consultation que nous proposons sur le compte Twitter de Sud Radio. Le gouvernement doit-il accroître les restrictions? Parmi les pistes, hein, il y a le délai d'isolement. Alors là, ça serait plus, donc aujourd'hui jusqu'à 17 jours. Là, il faudrait peut-être pouvoir abaisser ce temps pour permettre aux gens de retourner au travail. La question de zéro jour pour cas contact vacciné, par exemple, est évoquée. Ou alors, faut-il prolonger les vacances scolaires au-delà du 3 janvier? Bref, quelques idées. Abdoulaye Kanté.
Moi, je pense que le gouvernement est face à, on va dire, à une impasse qui, évidemment, il ne veut pas non plus tout fermer. Et aussi, il faut que les gens aillent travailler. On a aussi cette problématique de la rentrée reportée. Donc, de ce qu'il y a comme info. Après, apparemment, le gouvernement ne se dirige pas vers cela. Mais je pense qu'on est vraiment, il y a, voilà, quelle solution face justement à ce nouveau variant qui est arrivé, qui est a priori, selon certains scientifiques, moins virulent que le Delta. Donc effectivement, encore une fois, le meilleur des boucliers, c'est la vaccination. Mais quand on voit que entre 73 et 75% de la population l'est, et l'autre pourcentage ne l'est pas parce que, bon, pour X ou Y chose. Donc oui, je pense que pour mieux se protéger, il faut se faire vacciner et pour combattre au moins un de ces variants. Mais après, qu'est-ce que doit faire le gouvernement?
Pas simple, hein, quand même. Hein.
C'est pas simple parce qu'il faut aussi que les gens vivent. Il faut que les gens vivent, qu'ils puissent aller travailler. Il y a aussi la problématique, on l'a vu lors du dernier confinement, des certaines familles qui avaient du mal à pouvoir gérer les enfants, donc, et d'autres aussi problèmes psychologiques, etc. Donc, c'est pas simple, c'est pas simple.
Et puis, Philippe Bilger, il y a cette fameuse soirée qu'on aime tous, qui est la soirée
du
jour de l'an, enfin, la soirée, le réveillon de la Saint-Sylvestre. Faut-il serrer la vis ou pas, Philippe Bilger?
Mais d'abord, Frédéric, évidemment, vous êtes très aimable de me questionner comme si de moi allait surgir une lumière décisive. Mais,
en tout cas, une sagesse, j'en suis convaincu pour la sagesse.
Non, je pense qu'en tout cas, le gouvernement, par une volonté de distinction avec d'autres régimes plus durs, mise en œuvre par des pays, va chercher à la méthode qui sera la plus acceptable par la population. Parce que j'ai l'impression qu'il est très sensible à cette exigence d'acceptabilité et bien sûr de proportionnalité, parce qu'en définitive, d'après les bruits qu'on entend, Frédéric, je n'en sais pas plus, il semble ne pas aller vers une définition dure de ce qui nous attend, et peut-être même le 31, n'y aura-t-il pas le coup près d'un quelconque couvre-feu? Comme ça, vous pourrez réveiller nez jusqu'à point d'heure, mon cher Frédéric.
Sud Radio, le meilleur des vraies voix.
Vous écoutez le meilleur des vraies voix, on se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec le meilleur de la semaine, avec, comme d'habitude, un trio de choc.
Sud Radio, le meilleur des vraies voix.
C'est parti pour le premier débat avec du football qui est proposé à nos vraies voix, Philippe Bilger, Olivier Dartigol, Christophe Madrol. Les clubs prennent cher en ce moment à cause de l'ambiance qui va beaucoup plus loin que ce que clame Johnny Hallyday.
Les vraies voix Sud Radio.
Entre les feux de Bengale et ce qui suit après, c'est devenu intolérable. Le football est en train de pourrir. Nous sommes en pleine pandémie. En espérant pouvoir continuer les compétitions, les jauges en extérieur, vous le savez. Et puis, le retour de ces supporters depuis la rentrée. Et cette succession de violences. Un coup, c'est entre l'OM et l'OL. Un coup, c'est entre Nice et Marseille. Puis Lens et Lille. C'est pas partout, et puis le coup de grâce, la Coupe de France, les 32e de finale. Paris Football Club, club de Ligue 2, reçoit l'Olympique Lyonnais. C'était le 17 décembre dernier. Match arrêté à la mi-temps. Quelques fous lyonnais sont arrivés. Les pauvres du Paris Football Club qui reçoivent maximum 1000 personnes dans leur stade de Charletti qui est inaccessible. On ne peut pas se garer. C'était dit, ça y est, il y a un petit peu de monde, mais dépassé par les événements. Alors, 5 matchs de suspension pour le Paris Football Club. Les deux clubs sont exclus de la Coupe de France. Des pénalités de points avec tout ce qui se passe. Bref, ce sont les clubs qui payent dans tous les cas. Luxonor, vous l'avez encouragé à l'époque, dans les années 90, en équipe de France, avec Monaco, avec Metz. Il est là, Luxonor. Bonsoir, Luc.
Bonsoir.
C'est énervant, j'imagine, pour les joueurs, parce que là, en fait, vous vous entraînez, enfin, ils s'entraînent, il y a beaucoup d'investissements, les clubs donnent tout, il y a une compétition, on essaye que ce soit passionnant, et puis, pour de nombreux excités, tout vole en l'air. C'est normal de faire payer les clubs ou pas, Luxonor ?
Ben, moi, je vous dirais non, dans la mesure où les clubs, effectivement, ne peuvent pas tout contrôler. Ils ont déjà à gérer les joueurs par rapport à cette situation. Si en plus on doit mettre des joueurs presque dans les tribunes pour contrôler les supporters, on va pas y arriver. Je pense que si on veut vraiment aller au plus profond de la chose, je crois sincèrement que ce qui fait le plus mal au football aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, parce que je le dis et je le répète, je l'ai dit dernièrement, je suis tellement content d'avoir connu la période que j'ai connue de mon époque où il n'y avait pas ce genre d'énergumène dans les tribunes. Aujourd'hui, malheureusement, les clubs ont une tendance à donner le pouvoir aux COP. Ce qu'on appelle les COP, les groupes de supporters.
Les ultras, souvent, hein, les groupes ultras, c'est ça. Ouais.
Les ultras, comme on l'a vu très précisément à Paris. Maintenant, aujourd'hui, c'est Marseille. J'ai vu dernièrement, bon, il y a Lyon, il y a Marseille. Je pense que le seul club, en fait, qui peut se targuer d'avoir un groupe de supporters plutôt sage, c'est Monaco. Et j'en suis ravi. Mais tous les autres clubs, malheureusement, ont ce fameux COP à qui on donne le pouvoir. Mais dès l'instant où vous leur donnez les possibilités de rentrer dans les stades avec des objets, la possibilité en plus de pouvoir s'exprimer comme ils le veulent, sans sanction éventuelle, bah évidemment que tout le monde va y aller.
Luxonor, Luxonor, vous restez avec nous. J'invite nos auditeurs à participer à la consultation. Les clubs payent pour les supporters. Est-ce juste, oui ou non? Vous allez sur le compte Twitter de Sud Radio. On fait un petit tour de table avec sans doute des questions pour vous, Luxonor. On commence par Christophe Madrol.
Bonjour Luc, très heureux de vous avoir. Moi je suis Marseillais, je suis supporter de l'OM. Ouais. Et j'essaye de ne pas rater un match de l'OM.
Et qui a déjà été pénalisé cette saison. Hein.
J'ai eu la chance d'avoir un ami qui s'appelait Pape Diouf, qui a été président de l'OM.
Et avec son âme.
À son âme. Et avec Pape, on avait souvent cette réflexion. Et quand Pape a pris la présidence, la première chose qu'il a fait, c'est de convoquer tous les clubs de supporters et de les appeler à plus de citoyenneté. Et je pense que l'ensemble des clubs, un club de foot, c'est effectivement une équipe de foot, mais aussi c'est les supporters qui soutiennent le club. Et je pense qu'aujourd'hui, certains dirigeants de clubs de foot laissent de côté la question des supporters pour se consacrer uniquement à la question du jeu. Et je trouve que c'est dommage, parce que le sport, le sport, c'est beau. Un match de foot, c'est beau, c'est technique, c'est une belle ambiance. Quand on rentre au stade Vélodrome, et quand le stade Vélodrome est plein, et ben c'est beau. Mais quand je vois Dimitri prendre une canette comme
Dimitri Payet,
qui a pris une canette contre le Paris Saint-Germain l'autre jour, et ben ça me fait mal au ventre. Ça me fait mal au ventre.
Alors, parce que c'était une bouteille d'eau en plastique. Et c'était à Lyon.
Non, c'est à Marseille.
Non, c'est le match OM.
Avant. Ah non,
le match d'avant. C'est vrai qu'il y en a tellement.
Il y en a tellement. Non. J'étais présent. C'est pour ça, Frédéric. Non, parce que c'est vrai que j'étais et Dimitri que j'ai vu après le match. A été secoué. Ensuite, il y a eu l'histoire à Lyon. Et d'où la tribune qu'il a fait après en
ça
disant
devient
stop,
insupportable.
Stop.
Ouais. Oui. Philippe Bilger, est-ce que finalement, alors j'entends ce que dit Christophe Madrol, oui, un bon président peut gérer ses clubs de supporters, mais aujourd'hui il y a tellement, avec cette période très difficile, le confinement a rendu les gens particulièrement déboussolés, il y a un peu plus de violence un peu partout, et surtout beaucoup plus de violence du coup dans les tribunes.
Alors, Frédéric, moi, je suis un parfait sportif en chambre, hein. Donc, j'ai un point de vue, évidemment, tout à fait modeste par rapport à quelqu'un comme Luxonor que je me souviens avoir joué et avoir admiré. Mais
d'un point de vue sociétal, Philippe.
Les supporters, d'accord, mais évidemment, on peut parfois identifier les transgresseurs, les fauteurs de troubles, les créateurs de désordre et de violence. Je ne peux pas m'empêcher de penser tout de même que derrière tout cela, et quand on considère certains comportements collectifs, il y a une responsabilité de certains dirigeants, de, je dirais même, de certains entraîneurs, voire de certains joueurs qui ne donnent pas le bon exemple. Je ne veux pas dire qu'ils sont, ces gens-là, directement responsables de la crise dont on débat, mais je ne voudrais pas qu'on focalise uniquement sur la responsabilité de quelques supporters qui sont obtus ou idiots ou violents, alors que c'est un climat général qui, me semble-t-il, ne porte pas à la tranquillité et à l'esprit sportif.
Alors concrètement, la question, Olivier d'Artigol, il y a des sanctions contre les clubs. On peut imaginer que la démarche des commissions de discipline, que ce soit pour la fédération ou pour la ligue professionnelle, finalement incite les supporters qui sont censés aimer leur club à arrêter leurs bêtises. Je ne suis pas sûr que finalement ils le fassent avec l'intérêt de leur club, mais envie de faire la guerre comme des idiots, quoi.
La FFF a commencé à bouger, mais que n'a-t-il fallu comme événement inacceptable pour qu'elle bouge? Tournons pas autour du pont. Moi, je suis vraiment favorable à une responsabilisation totale des clubs.
Ah, vous êtes comme ça tous alors là. Oui.
Parce que je sens que c'est le seul levier aujourd'hui pour véritablement faire évoluer la situation.
Et les
regardez
pouvoirs publics.
Regardez la manière dont ça s'est passé en Angleterre face à l'hooliganisme, ouais, qui a été un phénomène de société très ancré, très enquisté dans les stades. J'ai regardé, pour préparer notre émission, il y a une prochaine loi en Angleterre qui va plus loin encore, qui va récriminer les propos racistes et homophobes tenus sur les réseaux sociaux contre les footballeurs professionnels, allant jusqu'à la possibilité d'une ordonnance d'interdiction de 10 ans de stade.
Mais là, c'est une loi, Olivier.
Oui,
les caméras de surveillance, il faut aussi que les pouvoirs publics assument.
Bien évidemment. Mais la première étape, c'est que les clubs doivent faire le ménage. À une certaine manière, il y a eu un laisser-faire, laisser-aller, justement, en commençant par les propos racistes et homophobes, par rapport à des attitudes, de l'agressivité, laisser les violences s'installer. Et donc, oui, beaucoup trop de dirigeants, il faut dire la vérité, ont fermé les yeux. Et donc, ça passe par la responsabilisation des clubs, et vous avez raison, très certainement peut-être, par une initiative législative.
Luc Sonor, le Paris Saint-Germain l'a fait et d'ailleurs a été critiqué parce que bon, c'était l'arrivée des dirigeants qataris qui ont mis de côté certains groupes. On leur a dit, bah oui, il n'y a plus d'ambiance dans votre stade. Mais eux l'ont fait, par exemple.
Ouais, ils l'ont fait, mais ils sont vite revenus à ce qu'ils avaient décidé. Hein. Ils se sont aperçus malgré tout que sans les ultras, sans tous ces gens-là, ben, il n'y avait pas suffisamment d'ambiance dans le stade. Donc ils sont quand même revenus, certes, plus sages, plus sage jusqu'à une certaine mesure, parce que je ne sais pas dans quelle mesure ils n'ont pas été concernés par ce qui s'est passé à Charletti avec le Paris FC et Lyon. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que je reviens à ce que je disais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution. La seule solution, celle que l'on préconise tous, c'est match à huis clos. On est bien d'accord. Donc, on revient à l'époque Covid. Match à huis clos et aussi le fait que les supporters adverses ne se déplacent pas dans les stades. Moi, je dis plutôt que de faire ça, sincèrement, il faudrait des sanctions comme celles que l'on vient de voir. Moi, je suis d'accord avec les sanctions qui viennent d'avoir lieu. Je pense que les clubs n'ont pas, certes, à subir ce que les supporters ont semé. Mais par contre, ce que je dis, c'est que qu'est-ce qu'il faut alors? À chaque fois qu'un supporter va aller dans un stade, il va mettre le bordel. Le club, il va en pâtir et il va finir avec 0 points. En fait.
Oui, et puis à ce compte-là,
donc, la solution, elle n'est pas là, finalement.
Et puis, messieurs, on peut imaginer, je sais pas, par exemple, je suis supporter de Lens, j'arrive avec un maillot et une écharpe de Lille, je balance quelque chose. Enfin, après, c'est non, tout et n'importe quoi, Christophe Madrol.
Moi, j'entends, Luc, mais rappelez-vous quand même, Basile Boli, quand il tirait le corner, il tirait avec des bruits de singe. Rappelez-vous ce qui s'est passé sur les crises.
Oh, moi aussi, je l'ai vécu.
Je sais, Luc. Moi, voyez, tout ça, ça a évolué. Je pense que c'est de la responsabilité aujourd'hui des clubs, et je suis d'accord avec Olivier, de faire le ménage par rapport à ses supporters. Est-ce qu'il faut
Ont-ils les moyens? C'est un métier, la sécurité,
donc,
messieurs.
Ça veut dire que les clubs, encore une fois, qu'ils arrêtent de donner tous les pouvoirs à ces clubs de supporters.
Bien sûr.
Arrêtons ça, commençons déjà par ça, parce que je vois à Marseille, puisque vous êtes marseillais,
Mais je vois à Marseille, je vois à Nice, je vois à Lyon, ces clubs-là sont gérés par les supporters. Mais on va où, là? Ouais. On va où? On leur fait... Alors, je me rappelle de l'épisode de Lyon, où il y a eu ce truc avec Dimitri Payet. Moi, j'ai vu des dirigeants aller applaudir leurs supporters. Mais on va où? Comment vous voulez qu'après, ces gens-là ne se sentent pas la responsabilité de tout ce qu'ils veulent?
Oui, effectivement.
Ils viennent de taper.
Complètement raison, Luc.
Et on va les applaudir, mais on va où?
Mais vous avez raison, Luc, quand j'ai vu, on va pas le nommer, mais Jean-Michel Aulas et toute la polémique...
Le président de Lyon.
La polémique,
et Nice
c'était... Et à Nice, c'était pareil, c'était scandaleux. À un moment donné, je vais vous dire, la responsabilité des clubs sont engagés quand ils sont sur le terrain de foot et qu'ils accueillent du public. Quand il y a un débordement, il faut que les dirigeants soient au carré par rapport à ça. Ils ne peuvent pas. Et effectivement, je pense que si la loi évolue, ce serait aussi de pouvoir condamner les dirigeants de clubs qui outrepassent leur capacité et leur possibilité de pouvoir gérer leur club.
Sud Radio. Le meilleur des vraies voix.
Vous écoutez bien le meilleur des vraies voix. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour du meilleur des vraies voix de la semaine. Et comme d'habitude, ça débat à bâton rompu, mais en toute courtoisie, en total respect et même avec beaucoup d'amitié.
Sud Radio. Le meilleur des vraies voix.
C'est l'heure du grand débat avec nos vraies voix. Philippe Bilger, Olivier Dartigol, Christophe Madrol. Et cette consultation que nous avons lancée, vous avez déjà commencé. Vous êtes attendu sur le compte Twitter de Sud Radio. Le thème que nous allons développer, c'est « Y a-t-il un avenir pour le télétravail ?» Je précise d'ailleurs, vous, chers auditeurs, vous pouvez devenir vraie voix. Vous intervenez sur un thème qu'on a évoqué éventuellement ou un autre thème de l'actualité qui a retenu votre attention. Ce sera à partir de 19h. Il y a un numéro de téléphone, le 0826 300 300. Vous êtes de toute façon en permanence les bienvenus et nous entrons donc dans ce grand débat. Alors, il n'y a pas de bonne solution. Télétravail, ça peut quand on est chez soi, être ça. Ça, c'est quand on est chez soi, avec les petites dérives, les avantages. Mais il y a aussi des inconvénients quand on est dans la masse et qu'on va se rendre à son entreprise. Bon, il y a des points positifs, il y a des points négatifs des deux côtés. Nous allons accueillir dans un instant notre invité du soir, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France, parce que il est clair que pour certaines entreprises, les grandes notamment, c'est un peu plus facile. Pour d'autres, les petites et moyennes, et ça concerne notre invité, un peu plus difficile. Et puis il y a aussi certaines activités professionnelles qui le permettent ou pas. On va déjà commencer par le tour de table, ou est-ce que Bernard Cohen-Haddad est avec nous? Pas encore. On commence par le tour de table. L'idée quand même, alors elle est, rappelons-le, nécessaire. Le gouvernement, hier, à l'issue de la conférence de presse, a fait des annonces. Le taux de contamination brûle. Vous l'avez vu, nous dépassons régulièrement les 100 000 cas journaliers en France. Il faut enrayer cette contamination. Au travail, la contamination se fait aussi. Le télétravail, au moins 3 jours par semaine, Olivier Dartigol.
Oui, mais ça sera à l'employeur d'en décider. Il n'y a pas d'obligation réglementaire. Il n'y a pas de loi qui oblige au télétravail. Ça rentre dans des recommandations. Moi, j'aimerais qu'on ait un état des lieux, un retour d'expérience sur le télétravail tel qu'il s'est développé au temps de la crise sanitaire, sur les premières vagues, etc. Moi, d'une manière un peu empirique autour de moi, j'ai vu des personnes avec une expérience positive, tout en étant très heureuse de retourner au travail.
Oui, c'est ça, oui.
Et j'ai vu des personnes pour lesquelles ça a été très difficile, très douloureux. On parle beaucoup de l'emploi dans notre pays, mais peu du travail, du sens du travail, de la sociabilité, de la relation humaine, j'ai envie de dire, du sens qu'on donne à sa vie par l'activité professionnelle, par son utilité sociale, par son lien aux autres. Et cette dimension-là, qui est une dimension qui dépasse l'économie, est une dimension qu'on doit regarder de près. Et on voit bien, on verra ce que dit notre invité, je vois qu'il y a, concernant les employeurs, un retour d'expérience plus ou moins positif aussi.
Christophe Madrolle.
Oui, il y a eu plusieurs périodes, Frédéric. C'est vrai qu'on a plutôt été content dans la première période, content entre guillemets, largement, de rester à la maison et de découvrir le télétravail. Moi, j'ai découvert le télétravail. Mais au bout de 3 mois, j'en avais marre. J'en avais marre de plus discuter politique avec mes collègues de boulot, de plus se retrouver à la machine à café.
Oui, parce que tu fais des adhésions.
Ouais, je faisais des adhésions à la machine à café, t'as l'habitude. Et ouais.
Nous rappelons que Christophe Madrolle est conseiller régional de la région sud, je l'ai redit. Hein.
Et donc on était, c'est une période, là j'en ai assez. Moi je vois, on nous impose aujourd'hui éventuellement d'être à 3 jours en télétravail, voire 4. J'ai envie de retrouver, parce qu'il y a le boulot.
Oui, mais Christophe, typiquement, vous parliez de la machine à café, mais c'est là qu'on prend le virus. Hein,
oui, bien sûr, mais je ne mets pas le côté de Covid. Je suis conscient de la situation sanitaire aujourd'hui et je fais tout pour essayer de régler ce problème avec la vaccination. Je dis que par rapport au télétravail, je pense qu'à un moment donné, ça doit suffire. À un moment donné, on doit passer à autre chose. Je ne considère pas que le télétravail soit la panacée du travail aujourd'hui. Parce qu'il y a le rapport humain à côté, il y a les rencontres que nous avons. Il faut se rappeler quand même qu'un mariage sur deux se fait autour de la se rencontre au travail.
Notre question, c'est le télétravail a-t-il un avenir?
Oui, c'est la question posée Frédéric. La question actuellement. Moi, je réponds à la question que Frédéric.
Non, mais là, vous voyez, parce qu'en fait, ce débat est construit, structuré. On voit qu'il y a un travail journalistique derrière, vraiment haute tenue.
Oui, bien sûr.
Et là, on donne le ressenti. Et le ressenti, évidemment, il va être magnifique. Philippe Bilger.
Mais à peine ai-je trouvé des vertus au télétravail, peut-être parce que j'ai un tempérament moins collectif et plus solitaire, que j'y voyais des avantages de liberté, de gestion de l'autonomie, peut-être de répudiation d'une autorité de proximité, que j'ai vu également ce que viennent de dire nos amis, c'est-à-dire je m'en suis rendu compte quand j'avais l'impression d'être confortablement chez moi pour le dialogue, par exemple pour les vraies voix, à quel point la proximité physique changeait radicalement la tonalité même de nos propos.
Oui, je rappelle que vous êtes actuellement en télétravail, Philippe. Oui.
Voilà. Et donc, ce que je me demande pour répondre précisément à la question de Sud Radio, je me demande tout de même si ça ne va pas impressionner favorablement le futur pour changer un peu le mode des relations professionnelles.
On va peut-être, messieurs, accueillir notre invité, et puis bien sûr, vous revenez sur la question. Bernard Cohen-Haddad, donc président de la CPME, les petites et moyennes entreprises, pour l'Île-de-France. Bonjour Bernard Cohen-Haddad.
Bonjour, désolé, je suis en télétravail, mais pas en visio.
Oui, mais c'est... Alors, on est en plein dedans, finalement. Nous faisons une démonstration concrète. Bon, il y a un premier problème qu'il faut absolument soulever, parce qu'on revient sur cette décision, sur ce conseil du gouvernement de faire minimum 3 jours de télétravail par semaine. Il faut préciser qu'aujourd'hui, vous, les entreprises, vous êtes en face d'un phénomène terriblement affolant, l'absentéisme.
On est en face de l'absentéisme, compte tenu des cas contacts d'Omicron qui se généralisent et qui nous polluent la vie, on peut le dire, puisque ces 17 jours d'isolement font que dans une petite entreprise de 4 salariés, si vous en avez 2 qui sont cas contacts pour 17 jours, plus un qui doit garder son enfant qui a été cas contact en école, on se retrouve tout simplement avec 2 personnes pour faire travailler la boutique, ce qui est extrêmement difficile. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème sur la capacité de revenir en entreprise ou même de travailler, puisque toutes les activités, comme vous le disiez à l'instant, ne sont pas télétravaillables. Il y a un certain nombre d'emplois postés, ce qu'on appelle dans le jargon du travail des emplois postés, où il faut être sur site. Il s'agit tout simplement d'un livreur qui va vous livrer votre litre de lait à la supérette, ou tout simplement un garagiste qui va faire des travaux sur votre véhicule ou sur votre moto. Donc tout n'est pas facile, et pourtant on a fait déjà le maximum.
Nous avons pris volontairement votre corporation, si je puis m'exprimer ainsi, Bernard Cohen-Haddad, parce que j'ai quand même l'impression, nous avons tous l'impression qu'il est beaucoup plus difficile de mettre en place un télétravail dans une grande, enfin plus difficile de le mettre dans une petite structure que dans une grande structure. Et donc les PME, pour le coup, là-dessus, sont un peu démunis, non ?
Oui, on est démunis parce que c'est beaucoup plus difficile ceci étant. Il faut garder raison. Depuis mars 2020, on a fait un super effort en matière télétravail. Vous savez, en mars 2020, quand ça nous est tombé dessus, on n'avait pas accès à un certain nombre de logiciels, les Zoom, les Reportit, etc., les Timax, etc. Je ne vais pas vous dire tous les systèmes qui étaient réservés aux grandes entreprises, ça avait un coût. Aujourd'hui, on peut le faire. Ceci étant, on ne peut pas tout mettre en télétravail. Un exemple chiffré, en Ile-de-France, 1 200 000 entreprises, 96% de TPE-PME. Parmi ces TPE-PME, il y en a 80% qui sont dans les services. Vous savez, les services, oui. Ça peut être l'administratif, la banque,
etc. Le secteur tertiaire.
Le secteur tertiaire. Et dans ce secteur tertiaire, dans les services, il y a seulement aujourd'hui 50% qui sont en télétravaillable. Vous vous rendez compte le progrès qu'il y a à faire encore ?
Effectivement. Restez bien avec nous sur le télétravail. Question à vous, Bernard Cohen-Haddad. Vous avez des retours des chefs d'entreprise. Est-ce que, dans certains cas, quand il y a eu télétravail, on a pu s'apercevoir d'une plus grande productivité, d'une plus grande efficacité de l'employé qui se trouve en télétravail ? Est-ce que ça arrive ? Est-ce qu'on l'a vu ?
Oui, bien sûr que ça arrive. Et d'ailleurs, nos salariés dans nos TPE, PME, travaillent beaucoup et ils travaillent bien. Il faut leur rendre cet hommage-là. Et je le dis sans flagornerie, si on ne les avait pas eus dans la crise, il y a plus longtemps qu'on aurait mis la clé sur la porte. Le télétravail, c'est un atout. C'est un atout surtout dans les grandes villes et les grandes métropoles, c'est que ça vous évite de faire une heure de travail pour aller travailler, une heure de travail pour venir chez vous. Plus de la moitié de nos salariés en Ile-de-France passent plus d'une heure de travail dans les transports. Vous vous rendez compte, le temps gagné déjà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ça a un effet négatif, et ça a été bien dit tout à l'heure par Philippe Pilger, c'est que quand on est en télétravail, on est chez soi. Et tout le monde dans les grandes métropoles, comme Paris en Ile-de-France, on n'a pas forcément des grands appartements. Donc on vit avec son entourage. Et à ce moment-là, on ne peut pas forcément travailler dans la journée, et donc on fait du sur-travail. C'est-à-dire qu'on travaille quand les autres sont couchés ou quand ils font autre chose. Et c'est parfois entre 20h, 22h. Et puis, on n'a pas tous des connexions en fibre. Donc, on n'a pas toujours l'Internet de haut débit. Et donc, on n'a pas la capacité de charger l'ensemble des documents de l'entreprise. Vous voyez, ça n'a pas que des atouts. Ça peut avoir aussi des inconvénients.
Le premier à dégainer est Olivier d'Artigol.
Oui, parce qu'il peut y avoir aussi un angle noir. C'est-à-dire, de très nombreux entrepreneurs, chefs d'entreprise, bien sûr, ont le respect de leurs salariés, quand même, il y a toujours un lien de subordination, et ont essayé de mettre en place ce télétravail au mieux. Mais on a eu des cas aussi très sévères, où beaucoup trop ont été demandés en termes de productivité. Il y a eu, par exemple, beaucoup de salariés qui ont demandé le droit à la déconnexion, de pouvoir souffler. Il y a eu des burn-out tout en étant chez soi, du fait d'une pression qui était devenue insupportable pour un très grand nombre de salariés qui se sont retrouvés dans cette situation. Donc il faut pas raconter qu'une histoire, la bisounours autour de tout ça. Il y a aussi des formes d'exploitation sévères qui ont pu se développer.
Philippe Bilger.
Je crois ce que vient de dire Olivier. J'avais été frappé après un début relativement enthousiaste sur le télétravail par le fait qu'un certain nombre de personnes disaient qu'en réalité, elles se sentaient très mal dans ce statut parce qu'en réalité, malgré l'apparente liberté qui était la leur, elles se sentaient plus tenues, plus contraintes que dans la proximité professionnelle. Et donc, ça m'a surpris parce que j'aurais imaginé l'inverse. Et au fond, c'est comme si l'éloignement permettait davantage d'emprise de la part de l'employeur et intimidait davantage la personne qui pourtant semblait plus libre. Oui, oui. Et donc, il y a un paradoxe.
Ouais, vous avez tous vraiment une approche très philosophique et cette question est finalement philosophique, Christophe Madrol.
Non, mais je partage ce que dit Philippe et Olivier. Moi, j'ai mes expériences professionnelles. Même si il y a du trajet en Ile-de-France, la totalité de mes collègues de travail M. Cohen-Haddad me disent qu'ils préfèrent faire une heure de travail matin et soir que d'être en télétravail, de transport, que d'être en télétravail. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce qu'il y a les gamins au milieu, parce qu'il y a des petites surfaces, parce que leur lieu d'habitation, c'est le lieu où ils débranchent, justement, du monde du travail. Certains ont reçu même des mails à 22h, 23h de leur patron qui leur demandait, pas forcément à répondre tout de suite, mais quand vous recevez un mail à 22h, 23h, vous avez tendance à cogiter à la réponse que vous allez amener. Vous voyez, je pense que c'est... Non, le télétravail, pour moi, à la question de Frédéric, puisqu'on recadre ça, ce n'est vraiment pas
A-t-il
l'avenir.
A-t-il un avenir ? Non.
Non, moi, je pense qu'il n'y a pas d'avenir. Il faut arrêter de penser... En plus, il y a une question... humaine derrière tout ça, une question psychologique. Je vais pas faire je pensais à la question syndicale derrière ça aussi. C'est qu'à un moment donné, il y a une organisation. C'est vrai que ça peut arranger une certaine forme de travail. En tout cas, c'est pas celle que je souhaite.
Sud Radio, le meilleur des vraies voix.
On se retrouve dans quelques instants après la pub et les informations.